And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
Hey, Frank, a little birdie told me you don't need a satellite dish to get DirecTV.
What's little birdie?
Was it Jimmy the Sparrow?
It's a figure of speech. Point is, you can stream DirecTV over the internet now.
Oh, sure. Next you're going to tell me those big birds are made of metal and filled with people, right?
You mean airplanes?
Stream DirecTV without a satellite dish. Call 1-800-DIRECTV. Terms and restrictions apply.
As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code The Athletic, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10. Place your first bet on any game and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Spot Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Et oui, nous sommes mardi, normalement notre podcast c'est le mercredi, mais là, que voulez-vous, au grand mot, les grands moyens, le Canadien qui annonce la nomination de Kent Hughes comme directeur général de l'équipe. Alors pour Arpin, Bessou et moi, c'était un incontournable, fallait qu'on vous parle tout de suite. Arpin, d'abord, tes réactions à chaud, même si ça fait déjà quelques heures?
Honnêtement, tu avais toujours l'impression que c'est lui que Jeff Quartin voulait vraiment. Mm-hmm. Moi, ma question, c'était surtout, est-ce que Jeff Quartin allait être capable de convaincre les autres membres du comité de recherche pour ce poste-là? Parce qu'évidemment, c'est une relation avec Jeff Quartin qui est très fort, qui date depuis très longtemps. Les deux se connaissent de leur temps ensemble dans la région de Boston. Alors, il faut croire que Kent Hughes a vraiment impressionné dans son entrevue. Parce que je pense que les autres candidats, Mathieu Darche et Daniel Brière, selon plein de sources, ont très bien fait dans leur entrevue. Et puis en particulier, Mathieu Darche, je pensais, était un candidat qui était très, très... qui était parfait, en fait, pour ce poste-là. Puis, en fait, je suis un peu surpris que ce n'est pas Mathieu Darche qui a été nommé. Mais ça montre à quel point Jeff Quartin a la confiance de Jeff Molson. Parce que je pense que Kent Hughes était son homme. Je pense que Kent Hughes, évidemment, a convaincu le reste de la groupe, particulièrement Jeff Molson, pendant le processus d'entrevue. Alors, tant mieux. On verra, mais c'est très intéressant comme embauche parce que à mes yeux, tu avais un gars, Mathieu Darche, qui me semblait être le perfect fit pour le Canadien, mais ils ont décidé d'aller dans cette direction-là. Alors, on verra ce que ça donne parce que c'est intéressant, je pense, savoir quelqu'un qui est un agent dans ce poste-là. Alors, c'est définitivement... Tu sais, il parlait de chercher quelqu'un outside the box. C'est pas complètement outside the box, aller chercher un agent de joueur, mais ça l'est quand même. C'est un candidat différent avec quelqu'un qui complémente Jeff Quartin, comme Jeff Quartin avait mentionné au moment de son embauche.
Ben, tu sais, tu disais, il a fallu que Kent Hughes se rendent ou réussissent à convaincre le comité en question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça commençait surtout par Jeff Molson. Je suis pas certain du tout que Bob Gainey et Michael Endlauer, qui étaient également sur ce comité-là, avaient un poids semblable, dans la mesure où Gorton et Molson étaient à bord avec le... par rapport... étaient conquis par la candidature de Hughes. Le reste, à mon sens, là, devait probablement devenir une formalité. Mais c'est intéressant quand même. Dans la plus récente chronique que Pierre Lebrun a écrit pour Athletic.com, il mentionne le fait que Jeff Gorton avait approché Kent Hughes à l'époque où il travaillait pour les Rangers de New York. Donc, ça fait quand même longtemps que Gorton a Hughes dans sa mire. Et puis, je pense que ça fait en sorte que ça donne une idée de l'évaluation que Gorton fait de cet homme-là, en dehors même simplement de la grille d'analyse de Montréal, de dire, ben, est-ce que cette personne-là coche les cases qui conviennent à un directeur général du Canadien de Montréal. S'il cherchait à l'embaucher avant même que toute la question du Canadien soit dans le portrait, c'est parce qu'il reconnaît chez lui un homme qui a des atouts appréciables au niveau de la gestion. Mais là, de pouvoir l'amener dans un rôle où suffisamment séduisant pour que Hughes renonce à des clients quand même très, très influent, très important dans le monde du hockey, parmi les joueurs de la Ligue nationale. Évidemment, on pense en premier lieu à Patrice Bergeron et Christopher Letang, tu sais, qui tournent le dos à une agence qui l'a contribué à bâtir, puis Quartex aujourd'hui est une des plus grandes agences dans le milieu du hockey. Il y a près de 300 millions de dollars en contrats totaux de joueurs dont officiellement il avait la gestion. Tu sais, c'est quand même une grosse pointure dans le milieu des agents. Fait que Je continue de croire qu'il a fallu que le Canadien, en lui présentant ou en le passant en entrevue puis en lui offrant ce poste-là, présente à Hughes le travail de directeur général comme étant beaucoup plus que celui d'un directeur général adjoint glorifié, si tu veux, ou d'un porte-parole, quoi que ce soit. Et en parlant avec Philippe Lecavalier, qui a été le dont Kent Hughes a été le mentor dans le monde des agents, Philippe Lecavalier disait, écoute, c'est assuré, c'est impossible que Kent Hughes aurait pris ce travail-là, aurait accepté de devenir directeur général du Canadien s'il n'avait pas eu l'assurance qu'il avait les coups des franges puis qu'il avait une carte blanche pour faire ce qu'il voulait dans ce travail-là. Donc, il n'est pas simplement là pour être le yes-man de Jeff Gorton.
Non, ça c'est clair. Puis en fait, c'est un peu... T'sais, tout le monde se demandait comment est-ce que ça allait fonctionner avec Jeff Gorton dans le rôle qu'il remplit avec le titre qu'il a été donné par Jeff Molson et le directeur général. C'est qui allait être le patron? Moi, je crois toujours que c'est véritablement Jeff Gorton, mais là, en engageant quelqu'un qui connaît Jeff Gorton de longue date, qui a un respect mutuel entre les deux hommes, tu commences à voir à quel point ça peut exister, cette idée-là ou cette façon d'organiser l'état-major du club avec deux personnes en tête. Je pense que quand Jeff Gorton nous a parlé après son embauche au début de décembre, il a été demandé s'il y a quelque chose qui... s'il y a une décision à prendre puis vous n'êtes pas d'accord, vous deux, ce qui tranche. Puis, Jeff Gorton a dit à l'époque quelque chose du genre que, ben, on va espérer que ça n'arrivera pas, qu'on va prendre des décisions, qu'on va prendre des décisions ensemble, on va être d'accord avec nos décisions. Alors, en engageant Kent Hughes, il me semble que, il crée une situation où, effectivement, le souhait de Jeff Gorton que ça se produit pas trop souvent, des désaccords sur des décisions, il crée une situation où ça peut se réaliser. Parce que les deux hommes se connaissent très bien. Même s'ils n'ont pas nécessairement travaillé ensemble, comme tu as mentionné, ça fait longtemps que Jeff Gorton parle à Kent Hughes concernant faire la transition à l'autre côté de la table de négociation. Alors, puis une chose qui est claire à mes yeux, c'est que parce que dans le fond, en fait, moi, j'ai eu la chance, puis il va y avoir un texte qui sort mardi, dans le fond plus tard mardi, mais j'ai parlé à Jeff Molson aujourd'hui brièvement là-dessus, puis une chose qu'il a dit, c'est que, tu sais, j'ai demandé pourquoi est-ce que on est allé si rapidement dans le processus, est-ce que c'était quoi, tu sais, moi, il me semblait qu'il y avait beaucoup de temps à faire ça parce que Jeff Gorton était en place.
Oui.
Alors, ça a enlevé un peu la pression de trouver quelqu'un pour remplir ce rôle-là de directeur général. Et sa réplique, c'était que il croit tellement dans cette idée d'avoir deux hommes, ben de deux personnes en fait, deux personnes à la tête des opérations hockey pour prendre les décisions ensemble, pour faire la job ensemble, qu'il voulait absolument que cette façon de faire soit entamée le plus tôt possible. Parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre qui s'en vient, puis il voulait absolument avoir le partner de Jeff Gorton en place le plus rapidement possible. Et puis, selon lui...
Pour pas que toutes les grosses décisions soient prises avant que le DG arrive.
Ben, c'est ben ça, ouais. Il y a ça. Puis, il y avait aussi le fait que, tu sais, il avait identifié des candidats, puis pas mal tout les candidats à qui ils voulaient parler étaient disponibles pour faire des entrevues, a été libéré par leurs organisations pour faire des entrevues avec les Canadiens. Alors, ils trouvaient pas que... ils voyaient aucune raison d'attendre parce que, dans le fond, ils ont parlé à tout le monde qui voulait parler. Alors, il y avait pas de limitation dans ce sens-là où ça serait mieux d'attendre la fin de la saison ou whatever. Tous les candidats qu'ils avaient identifiés auxquels ils voulaient parler, ils ont pu le faire. Puis de ce groupe-là, Kent Hughes a ressorti du lot, puis finalement, c'est lui qui est le directeur général du Canadien.
Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vois comme étant le plus gros défi qui va attendre Kent Hughes dans ses fonctions-là?
Ben, c'est clair que l'équipe en ce moment est très difficile à expliquer. T'sais, nous, on essaie de le faire pendant toute la saison. Je suis toujours pas convaincu que l'équipe est si perdu que ça. Tu le vois jouer sur la glace, puis ça saute à l'évidence que l'équipe joue pas du bon hockey, puis ça fait des mois qu'ils jouent pas du bon hockey. Mais les joueurs, le talent est quand même là. Il y a des joueurs de talent sur cette équipe-là. Alors, pour moi, le plus grand défi, ça va être d'essayer d'effectivement de garder une perspective sur les joueurs individuels. Et déterminer à quel point la saison et toutes les circonstances entourant cette saison-là ont contribué aux performances individuelles des membres de l'équipe. Puis faire cette évaluation-là un peu froidement, ce que Kent Hughes est quand même assez bien placé pour faire, puis que Jeff Gorton fait depuis 6 semaines en suivant l'équipe, puis faire son évaluation de l'équipe. Mais c'est ça, le plus grand défi pour les deux, en fait, c'est vraiment d'essayer de regarder les joueurs non seulement dans l'optique de cette saison-là, mais dans l'optique de leur carrière au complet, puis essayer de déterminer à quel point les circonstances de cette saison ont mené à des contre-performances, ou déterminer si, dans certains autres cas peut-être, si la version du joueur qu'on voit en ce moment, c'est vraiment ça qu'il est, puis il faut peut-être s'en débarrasser de lui. Ou dans d'autres cas, tu sais, je pense à Jeff Petrie, entre autres, si c'est le début d'un déclin, puis il faut voir si l'âge joue là-dedans. Mais faire cette évaluation-là, ça va être extrêmement difficile parce que j'ai quand même de la misère à expliquer comment ça se fait que cette équipe-là est si mauvaise, aussi mauvaise qu'il l'est. Écoute, personne ne pensait que le Canadien allait facilement entrer en séries éliminatoires. En fait, juste entrer en série était un grand défi pour cette équipe et probablement, ça allait pas. Tu sais, on ne s'attendait pas que ça arrive dans la plupart des cas. Mais ils ne sont pas si mauvais que. Ils ne sont pas le pire équipe de la Ligue nationale. Voyons donc. Puis l'autre soir, tu sais, quand tu regardes l'alignement de l'Arizona et du Canadien. Tu sais, je prendrais l'alignement du Canadien si je dois être honnête là, en termes du talent des joueurs, mais quand tu les mets ensemble en ce moment, c'est comme tout le monde a oublié comment jouer au hockey. Puis,
c'est une grosse coche au-dessus des Coyotes de l'Arizona qui sont passés sur le corps du Canadien lundi soir. Là.
C'est ça que je dis. Alors, comment est-ce que tu évalues cette situation? Moi, je suis pas capable de le faire. Mm-hmm. Parce que, tu sais, est-ce que Josh Anderson, tout d'un coup, est mauvais? Est-ce que Nick Suzuki est mauvais? Est-ce que Cole Caulfield est mauvais avec la saison qu'il connaît en ce moment? Mais il y a d'autres catégories de joueurs. Est-ce qu'Yoel Armia est aussi mauvais qu'il joue en ce moment? Et, tu sais, ça va être extrêmement difficile de décortiquer tout ça. Alors, pour moi, c'est le plus grand défi de cette équipe de management-là. C'est vraiment de faire une évaluation juste des joueurs qu'ils ont en main, parce que c'est pas vrai qu'ils peuvent se débarrasser de tout le monde. Là. C'est impossible. Alors, il faut vraiment qu'ils choisissent. Tu sais, s'ils vont racheter des contrats, il faut bien choisir ces contrats-là. S'ils vont échanger des joueurs contre pas grand-chose, il faut bien choisir quel joueur le faire avec. Et en ce moment, c'est très difficile à faire parce que moi, en tout cas, j'ai de la misère à évaluer ces joueurs-là parce qu'il me semble qu'il y a juste comme une tempête autour de l'équipe qui rend l'évaluation beaucoup plus compliquée qu'en temps normal.
Je pense qu'il y a une autre catégorie de joueurs, par exemple, qui est à considérer là-dedans. Puis je pense qu'à ce niveau-là, ça va être peut-être plus facile de prendre le pouls de l'équipe de la part de Jeff Gorton et éventuellement de Kent Hughes. C'est qui a envie d'être là? C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ne performent pas parce que j'ai l'impression espèrent se retrouver ailleurs. Et si c'est le cas, ben à ce moment-là, il y a des décisions qui vont devoir être prises par rapport au fait de qui on accommode parmi ces joueurs-là. S'ils sont pas contents, est-ce qu'il y a un moyen qu'on les rende plus contents ou si on arrive à un point de non-retour où ces gars-là s'imaginent ailleurs et que c'est seulement ailleurs qu'ils vont pouvoir retrouver leur niveau de jeu, le niveau de jeu auquel ils sont capables, dont ils sont capables, dis-je. Et donc je pense que ça, c'est tout un créneau en soi qui pourrait expliquer plus la saison avance, plus le fait que les performances collectives ne s'améliorent pas, c'est parce que tu as des gars qui, à mon sens, ont perdu l'envie de s'investir à 100% pour le Canadien de Montréal. Donc, ça aussi, je pense que ça va être une donnée qui va rentrer en ligne de compte. J'ai hâte de voir personnellement l'implication que va avoir Kent Hughes au chapitre du développement des joueurs. On se souviendra qu'au moment de sa nomination, Jeff Gorton avait mentionné le développement des joueurs comme étant une facette qui voulait vraiment travailler à titre de vice-président des opérations hockey. Évidemment, repêchage, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs qu'on repêche? De quelle manière on les développe pour qu'ils arrivent à maturité puis qu'ils offrent leur plein potentiel? Puis c'est intéressant dans ce sens-là d'amener un agent, parce que la moitié du travail d'un agent, c'est de faire du développement de joueurs. Oui, les gens vont parler de négociation de contrat, etc., c'est vrai, mais sauf qu'au quotidien, de quelle manière, surtout dans les agences peut-être un petit peu plus petites où le même agent n'a pas 50 clients, là, que dans les agences un petit peu plus petites où c'est un petit peu plus de boutique dans la façon de fonctionner, au quotidien, les agents font un suivi, écoutent les matchs de leurs clients, sont en contact avec eux, gardent le pouls sur leur environnement, sur la façon dont ils s'insèrent dans l'organisation pour laquelle ils travaillent, ça convient toujours, etc. T'sais, je viens de parler de joueurs potentiellement mécontents. Je pense que c'est le genre de choses sur lesquelles un agent est à l'écoute. Mais en termes de développement de joueurs, il ne faut pas oublier là, que Quartex est une agence qui, entre autres, va organiser des camps pour ses clients, faire des camps durant la saison morte. Donc, il y a toute une série de choses que font les agents et que faisait Kent Hughes avec ses clients qui favorisent justement le développement des joueurs. Donc, étant donné que c'est une facette qui doit être améliorée chez le Canadien, ben, quand Jeff Gorton parle de qualité complémentaire à son travail, ben, il me semble que c'est quelque chose que Hughes peut apporter justement en complémentarité.
Oui, puis l'autre chose, tu sais, je pense que, tu sais, Jeff Gorton, écoute, on a demandé à plein de joueurs depuis sa nomination s'il y a eu une conversation avec Jeff Gorton, puis chaque joueur, en fait, j'ai pas entendu un joueur qui a dit oui, que j'ai eu une conversation avec Jeff Gorton à date, ce qui est un grand départ de son prédécesseur. Tu sais, Marc Bergevin était très proche des joueurs et les joueurs semblaient apprécier la relation qu'il y avait avec eux. Ça créait une certaine feeling de, qu'il faisait partie de l'équipe, que comment il jouait, comment il allait, était important pour le patron. Et là, tu amènes un agent de joueur qui a aussi ce job-là, qui une autre partie d'un job d'agent de joueur, c'est juste d'écouter ses joueurs, d'écouter leurs problèmes, d'essayer de les régler, d'essayer d'en parler avec eux pour voir s'il peut trouver des solutions. Tu sais, le job d'agent n'arrête pas quand un contrat est signé. Tu sais, comme tu as mentionné, il y a le développement des joueurs, mais tu sais, il y a toutes sortes de paquets de facteurs, toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans la vie d'un joueur. Si c'est le coach qui ne donne pas assez de glace, que les conditions de travail, toutes sortes de choses, l'argent, comment gérer, comment bien l'investir. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les joueurs parlent à leur agent. Alors, je me demande à quel point Kent Hughes va peut-être être comme, tu sais, le yin et yang ou le good cop, bad cop avec Jeff Courtin, être le gars qui va être un peu plus proche des joueurs. Parce que à date, ça ne semble pas être quelque chose que Jeff Courtin fait très fréquemment. Ce qui est parfaitement correct, là, je vais être clair, parce que les directeurs généraux, d'habitude, sont pas très proches des joueurs. Là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Il y a une certaine barrière à garder parce que, en fait, tu sais, pour citer Marc Bergevin, à la fin de la journée, les DG doivent évaluer ces joueurs-là, puis prendre des décisions de peut-être les laisser partir ou de les échanger. Alors, quand tu as une relation un peu trop proche avec ces joueurs-là, peut-être ces décisions-là peuvent être compromises un peu par la relation que tu as bâtie avec le joueur. Alors, mais je me demande si avoir Kent Hughes, si lui, sa façon de faire va être d'être proche des joueurs, puis Jeff Courtin peut rester un peu plus éloigné, puis ça donne un peu le mix que le Canadien recherche en ayant deux personnes à la tête des opérations hockey au lieu de Justin.
Ouais, mais je pense que c'est deux hommes qui vont se compléter par le... ou en fait vont se rejoindre dans leur côté un petit peu plus pragmatique, un petit peu plus réfléchi, tu sais... Marc Bergevin était tellement un gars qui avait les émotions à fleur de peau, puis qui, tu sais, il avait un style passionné, puis ça se sentait, puis dans ses rapports avec les joueurs, ça se sentait également. Et moi, ce qu'on m'a dit à propos de Kent Hughes, c'est sans dire que, tu sais, il comprend, là, pour avoir géré des joueurs de hockey, tu sais, avoir été leur représentant, il comprend que c'est des personnes qui ont des vies, tout ça, puis je pense qu'il est très sensible à ça. Mais c'est également le genre de gars qui va être capable de faire la part des choses, de dire, bon, ben, et avoir une lecture assez fine de la situation pour dire, voici le genre de joueur ou ce joueur-ci, c'est important qu'on le retienne, qu'on le garde avec nous, et c'est important que tel autre, on passe à un autre appel, puis le temps est venu de s'en séparer. Alors, à ce niveau-là, moi, du moins, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il avait justement cette distance critique-là, et il n'y a aucun doute dans mon esprit que Jeff Gorton, là, lui aussi.
Oui, ben c'est ça. C'est un peu... ce que moi, je trouve intéressant là-dedans, c'est que, c'est une fois que tu vas chercher Jeff Gorton, c'était probablement une bonne chose de lui laisser... Tu sais, même s'il y avait un comité de sélection pour le directeur général, je trouve que ça aurait peut-être été mal vu s'il n'était pas capable de vraiment engager la personne que lui, il pensait était le meilleur pour le poste, qui était clairement Kent Hughes.
Ouais.
Il faut donner cette confiance-là, il faut déléguer cette responsabilité-là. Si tu engages quelqu'un pour gérer tes opérations hockey, c'est important que cette personne-là soit capable d'engager leur monde. Alors là, c'est l'équipe de Jeff Courtin qui commence à être bâti, puis c'est sa vision avec celui de Kent Hughes qui va déterminer l'avenir du Canadien. Puis ça va être fascinant de voir comment ces deux hommes-là vont être capables de faire l'évaluation auquel je parlais tantôt, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. T'sais. On est à 2 mois de la date limite des transactions, ce qui est quand même long. C'est très tard dans l'année, plus tard dans l'année que d'habitude. Mais c'est... tu utilises toujours comme le cliché, comme Laird Gorton commence ou whatever, mais oui. C'est vraiment vrai, là. T'sais, c'est comme, parce que là, il va y avoir d'autres mondes qui vont être engagés. C'est qui est-ce que les connaissances de Kent Hughes vont joindre l'organisation? On sait pas, mais ça se peut. Est-ce que le monde que Jeff Gorton connaît va commencer à joindre les Canadiens? Parce que là, maintenant que Kent Hughes est engagé, les vraies décisions et les vrais engagements, les vraies embauches vont commencer. Ils peuvent se concentrer sur ces choses-là. T'sais. Directeur de recrutement, pour moi, c'est le poste le plus critique que Jeff Gorton et Kent Hughes trouvent la bonne personne à remplir. Mais il y a tout le département de développement des joueurs que Jeff Gorton voulait renforcer. Il voulait bâtir un département d'analytique ou d'analyse statistique qui existe quasiment pas chez le Canadien en ce moment. D'autres assistants, des assistants DG. Comment exactement l'état-major va être composé? Il va y avoir combien de personnes? À quel point est-ce que ça va être une groupe diverse que Jeff Molson a mentionné? Il voulait absolument que le département des opérations hockey soit plus diversifié en termes d'ajouter des femmes ou des personnes de couleur. Alors, tout ça tout ce processus-là peut commencer maintenant. Et je vais être très, très, très intéressant parce que pour moi, si engager Kent Hughes ou Mathieu Darche ou Daniel Brière, c'est... Je ne veux pas dire que ça ne change pas grand-chose. Évidemment, c'est très important, ces trois hommes différents avec des expériences très différentes. Et je pense que l'engagement, aller chercher Kent Hughes, ça signifie quelque chose de différent que les deux autres candidats. Mais là, ça va être vraiment pour moi, la partie la plus intéressante commence maintenant avec quand ils vont bâtir le reste de leur équipe de management, puis tous les autres postes qui pensent combler. Je ne sais pas à quel point ils vont être capables de faire ça pendant la saison, mais ça va être très, très, très intéressant à suivre ce processus-là aussi.
Oui, ben en fait, pour ce qui est du poste de directeur du recrutement, ça m'apparaît difficile de combler ce poste-là avant la fin de la saison, puis avant le prochain repêchage. C'est évident. Absolument. Mais pour les autres, c'est pas seulement des postes comme tels à combler, parce qu'il va y avoir un directeur général adjoint, l'équivalent du poste de Scott Mellenby va devoir être comblé, mais je pense que il va peut-être y avoir également une volonté de grossir la quantité de personnel, puis de dire ben peut-être qu'on va spécialiser des tâches, puis avoir des gens justement au développement des joueurs, au niveau finalement du développement des habiletés, etc. Peut-être qu'il va y avoir une multitude d'embauches où là, l'aspect diversité auquel tient Jeff Molson va davantage s'exprimer. Parce que, honnêtement, moi, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une embauche relativement conservatrice au point de vue du directeur général. Puis quand je parle de conservatrice, je parle donc d'avoir un homme de hockey traditionnel. Il semblait pas y avoir énormément de gens de couleur, semble-t-il, dans le groupe, dans la dizaine de personnes qui ont été interviewées. Il y avait des femmes, mais dans quelle mesure, quel est leur nombre exact qui ont été interviewées? Je ne sais pas si l'intérêt était mutuel dans certains cas. Mm-hmm. Mais là, maintenant, il va y avoir donc de nouveaux postes qui vont être ouverts, puis peut-être que cette diversité-là va s'exprimer davantage à cette occasion-là. J'étais curieux de t'entendre sur un truc aussi, Arpin, c'est que on le voit sur les réseaux sociaux depuis ce matin, puis c'est pas toujours chic et de bon goût, là. Mais Kent Hughes est originaire de Beaconsfield. C'est un homme dont les parents sont anglophones, mais lui, il est bilingue. Il utilise son français un peu moins à cause de toutes les années qu'il a passées à Boston, mais pour avoir déjà parlé avec lui, je sais qu'il parle très bien français. Uh-huh. Mais il s'appelle Kent Hughes. Et puis, je suis certain que pour une certaine frange des amateurs du Canadien, de pas avoir un gars qui, excusez-moi l'expression, là, mais qui est de souche, ça va titiller un certain nombre de personnes. Moi, personnellement, ça m'embête énormément parce qu'à partir du moment où on cesse de dire, si le critère n'est pas l'aptitude à parler français parce qu'il faut que le directeur général puisse communiquer avec les fans, ce qui est depuis toujours le paravent derrière qu'on utilise, puis l'explication qu'on nous sert pour justifier ce critère-là. Si ça cesse d'être ça et que dans le fond, il faut que ce soit un pur laine francophone, je trouve qu'on arrive vraiment dans un dérapage très, très délicat et très, très dangereux. Puis je pense que à ce niveau-là, Kent Hughes offre un gros test pour le Canadien de Montréal dans l'étanchéité de ce critère-là.
Oui, je suis entièrement d'accord. Puis honnêtement, moi, je me rappelle, c'était quand Pierre Gauthier a été nommé directeur général pour remplacer Bob Gainey. Oui, c'est ça. Et puis, c'était Pierre Brouvin qui était le président de l'équipe à l'époque. Puis, je me rappelle, pendant la conférence de presse, en fait, c'est moi qui l'ai demandé. J'ai demandé à M. Brouvin que est-ce qu'il y a un processus d'embauche? Est-ce que vous avez fait d'autres entrevues? Est-ce que vous avez fait des recherches? As-tu parlé à d'autres candidats? Comment ça se fait que Pierre Gauthier est ici et est nommé, en fait, reçoit une promotion d'assistant DG à DG sans qu'on ait entendu quoi que ce soit en termes de processus? Puis il a dit, on a pensé à ça, puis on a regardé tout autour, puis considérant nos critères qu'il faut qu'il y ait de l'expérience et il faut qu'il soit capable de parler en français, on avait notre meilleur candidat. Et j'essayais de penser, parce qu'avant lui, évidemment, il y avait Bob Gainey qui parlait français, qui n'était pas francophone, évidemment, même pas québécois. Et ça avait l'air d'être correct parce qu'il a joué à Montréal pendant longtemps. Il est au temps de le renommer, il était capitaine de l'équipe, c'était correct. Puis avant, tu sais, mais quand tu regardes, à un moment donné dans l'histoire du Canadien, tu sais, comme, je pense que Sam Pollock parlait assez bien le français, il était bilingue, il était capable de parler en français, mais c'était pas en francophone, c'était le plus grand DG de l'histoire de l'équipe. Et tu sais, à un moment donné, c'est devenu quelque chose où le DG était équivalent à l'entraîneur, tandis que le rôle du DG n'est pas du tout la même chose que l'entraîneur. Il y a peut-être une dizaine ou une douzaine de fois que le DG va parler aux médias. Et ça, c'est pendant une année quand même assez active. Il y avait des années sous le règne de Pierre Gauthier où on parlait peut-être quatre fois dans une saison. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas le contact avec les partisans au quotidien qu'un entraîneur a et qu'il doit avoir. T'sais, engager un entraîneur qui parle français, pour moi, c'est primordial. Tu peux pas contourner ça. Et je suis d'accord que le DG devrait être capable de parler en français, mais je suis d'accord avec toi aussi que quand on regarde ça, puis il y a différence entre être bilingue, parce que moi, je suis bilingue. Et moi, je suis Québécois, moi, je suis Montréalais, j'ai vécu toute ma vie ici. Mais quand tu parles de souche ou tu parles pure laine, ça, c'est une autre chose. Et ça prend une connotation qui est comme... qui est quasiment raciste. Là, tu sais, c'est comme si tu veux juste une certaine genre de personne qui te ressemble pour être dans ce poste-là, pour te représenter. Et je le comprends à un certain point. Tu sais, il y a tellement un sentiment d'appartenance que le Canadien a avec leurs partisans. Et ça a toujours été, le Canadien a toujours représenté quelque chose à la population francophone du Québec comme étant leur possibilité. Tu sais, c'était à une époque où beaucoup de l'argent au Québec était dans les mains des anglophones, puis c'était difficile de démarquer comme francophone au Québec. Le Canadien représentait quelque chose que regarde ce que je peux faire parce que je vois des Maurice Richard ou des Guy Lafleur ou du monde comme moi qui ont du succès sur un plan national et international. Alors moi aussi, peut-être je peux le faire ça. Oui. Ça, je comprends tout ça. Mais rendu là, de nos jours, de croire que un homme qui a grandi à Montréal, même si c'est Beaconsfield, même si c'est le West Island, qui comprend l'importance du Canadien auprès du population, auprès de la ville, auprès de la province, qui parle un français très bien, quand même, de dire que c'est un anglophone, alors, de critiquer ça pour ça, c'est ça va dans un terrain qui est pas très qui me met un peu mal à l'aise, honnêtement. Puis tu sais, j'ai vu, tu sais, le VP de communication, notre ancienne collègue Chantal Maccabée, qui aussitôt que l'embauche a été annoncée, elle a immédiatement pris la peine de mentionner à tout le monde que Ken Hughes est Montréalais, puis il parle très bien français, puis il est bilingue. Ouais. C'était important de le noter parce qu'en regardant le nom, elle savait qu'en regardant le nom Ken Hughes, il y a du monde qui vont réagir comme ça. Puis si tu vas sur le compte Twitter du Canadien, puis tu cliques sur le tweet qui a annoncé l'embauche et tu regardes les réactions, il y en a quand même pas une tonne, pas la majorité, mais il y en a quand même du monde qui dit, ben voyons donc, tu viens d'engager un anglophone, il n'est pas québécois.
Ben oui, c'est ça. Puis d'un autre côté, s'ils avaient embauché Darche ou Brière, ils s'en seraient trouvés pour dire, bon, le Canadien a embauché un francophone de service qui va être là pour répondre aux quatre volontés de Jeff Gorton. Fait que finalement, tu ne sors pas gagnant, tu sais, d'un côté ou de l'autre.
Oui, exactement. Puis, mais honnêtement, tu sais, Jeff Molson, il aurait pu, s'il voulait, c'était lui, bien, c'était lui et ses partenaires et ses, les propriétaires minoritaires à décider, mais il aurait pu dire, comme je viens de le dire, il dit, écoute, à notre époque, l'entraîneur va toujours être quelqu'un qui peut communiquer en français, mais là, on est rendu à un point où il faut vraiment qu'on recherche les meilleurs candidats, peu importe ce qu'ils sont capables de parler français, pour ce poste de DG-là, à cause du fait que c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui va parler aux médias, qui va parler aux partisans sur une base quotidienne. Alors, on a décidé qu'on va faire ça. Puis, en quelque sorte, il a fait ça en engageant Jeff Gorton, mais il a quand même pris la peine, tu sais, chaque candidat que le Canadien, avec qui le Canadien a parlé pour ce poste-là, était bilingue. Et c'est quelque chose qui est très important pour Jeff Molson. Il comprend très bien les inquiétudes, les sensibilités, tout ce qui vient avec la question de langue et le Canadien de Montréal. Tu sais, j'expliquais l'autre jour, j'étais sur le podcast de notre ancien collègue et notre ami Craig Morgan à Arizona, avant le match à Arizona, puis il m'a demandé d'expliquer ça.
Oui.
Puis j'ai dit, tu sais, l'identité nationale du Québec, le plus grand facteur de cette identité-là, c'est la langue, mais il y a un autre important facteur dans cette identité-là, c'est le Canadien. Alors, les deux vont ensemble. Tu sais, c'est comme, tu peux jamais... Alors, je pense que c'est important de dire que, oui, que ça demeure important pour le Canadien, ça demeure important pour Jeff Molson, puis ils ont engagé quelqu'un qui va être capable de communiquer avec leurs fans dans leur langue. Et ça ne devrait pas être plus que ça qui est requis. Il ne devrait pas avoir un critère qui est au-dessus de ça, parce que dire qu'il doit être francophone, québécois de souche ou whatever, n'importe quel terme que tu décides de prendre, mais là, quand on va dans ces eaux-là, je pense qu'il y a une certaine prudence qui est nécessaire parce que tu commences à... La conversation devient un peu moins sur le hockey puis plus sur d'autres choses que je pense n'a pas rapport avec la discussion qu'on a aujourd'hui.
Non, c'est ça, qui déborde du cadre du hockey. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir aussi, tu sais, dans ce processus-là, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, tu sais, clairement, Mathieu Darche et puis Daniel Brière, en faisant circuler leur nom, en ressortant de ce processus-là avec des bonnes notes, il y a eu des rumeurs à l'effet que Mathieu Darche pouvait potentiellement intéresser les Ducks d'Anaheim. Je ne sais pas si ça va se matérialiser ou non, mais je crois que ça aide. À chaque fois qu'il y a un processus comme celui-là aussi, ça aide à faire prendre conscience aux autres équipes que ces gars-là valent quelque chose et méritent qu'on s'y intéresse. Mm-hmm. Et font en sorte que à partir du moment où ils sont... où ils sont appelés pour une entrevue, mais là, peut-être que ça va ouvrir les yeux de d'autres formations pour dire « Ah, mais cette personne-là, c'est vrai qu'elle pourrait être intéressante pour nous. » Et leur nom circule, et je pense que ça collabore au fait que le processus en tant que tel va aider à développer une nouvelle génération de gars au sein de l'état-major d'une équipe de hockey, des gestionnaires québécois comme Darche, comme Brière, peut-être un jour comme Marc Denis également. Puis moi, je verrais très bien ces trois gars-là avoir des postes de haute direction au sein d'une formation. T'sais. Alors, ça ne s'arrête pas à Kent Hughes non plus, ça ne s'arrête pas à Jeff Gorton, mais c'est le fait de dire, on a déjà eu Julien Brisebois, c'est le Canadien qui l'a formé, etc. Un jour, qui sait les circonstances, peut-être qu'un jour il pourrait être disponible et qu'il rentre au Bercail et revienne diriger le Canadien. Mais ces gars-là aussi, tu sais, c'est des semences que tu plantes dans la terre, puis à un moment donné, ben, ça bourgeonne, puis ça amène des résultats. Je pense que ça peut faire en sorte qu'un jour, le Canadien, de la même manière qu'on a vu un groupe d'entraîneurs, une nouvelle génération d'entraîneurs francophones se démarquer, on le voit depuis quelques années au milieu professionnel, puis donner aux Canadiens plus d'options le jour où il va se chercher un entraîneur-chef. Ben, je pense que un processus comme celui-là aide à ce que le Canadien puisse aussi, dans le futur, se donner d'autres options parmi des gestionnaires, parmi des gars qui seraient potentiellement de futurs directeurs généraux. Donc, toute l'opération, à mon avis, le Canadien ne sort pas perdant de ça.
Non, pas du tout. Puis, en fait, c'est un peu pour ça que ça m'intéresse la suite des choses, parce que le même principe que tu viens de mentionner, puis je suis entièrement d'accord, puis je prends l'exemple de, tu sais, il y a Catherine Reich,
Reich,
que tu prononces? Qui travaille dans l'état-major des Eagles de la Philadelphie dans la NFL, et les Vikings de Minnesota avaient demandé de faire une entrevue avec elle pour leur poste libre de directeur général.
Elle a passé son entrevue hier.
Exact. Alors, une chose que j'aime dans la NFL, c'est comment chaque équipe est complètement transparent avec le monde auquel il parle pour chaque poste. Mm-hmm. Parce que ce que ça fait, c'est que ça fait circuler ces noms-là. Alors, tu sais, la plupart des candidats sont des hommes blancs, tu sais, on se le cachera pas, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Tu sais, je pense particulièrement dans le cas de Brière, tu sais, le fait qu'il a été engagé, le fait qu'il a été impliqué, qu'il était rendu à deuxième ronde, qu'il était finaliste pour le poste, ça va peut-être ouvrir les yeux non seulement des autres équipes, mais l'équipe pour laquelle il travaille en ce moment, les Flyers de Philadelphie, qui va dire, hey, peut-être on serait mieux de ne pas laisser ce gars-là partir, puis il va être donné un poste un peu plus important au niveau de la Ligue nationale et pas dans les CHL. Mais ce que ça fait, c'est que c'est là, toute la Ligue a vu que le Minnesota voulait parler à Catherine Reich. Là, la prochaine fois qu'un autre poste s'ouvre, il dit, ah, peut-être on devrait lui parler. Et c'est une façon d'assurer que, aussi au niveau de, tu sais, des femmes que le Canadien veut engager dans leur état-major ou dans n'importe quel département qu'ils sont en train de bâtir, peut-être des personnes de couleur, si tu entends ça, même si le poste revient finalement pas à ces candidats-là, juste le fait que leur nom circule un peu, ça commence le processus de... Et c'est vraiment similaire, c'est la même chose. Les Canadiens ont intérêt que, disons, Daniel Brière devient un directeur général adjoint quelque part. Alors, dans 5-6 ans, ou dans 5 ans, peut-être, quand le contrat de Kent Hughes termine, peut-être que c'est quelqu'un qui serait prêt pour ce poste-là. C'est parce que même s'il n'est pas avec le Canadien, même s'il ne se développe pas ici, s'il le fait dans une autre organisation, tant mieux, en fait, parce qu'il va amener des nouvelles idées, il va amener des choses différentes. Et peut-être ça peut arriver. Alors, dans le même sens, c'est une façon aussi de... C'est pour ça que je suis tellement intéressé de voir la suite des choses. C'est si le Canadien va parler à des femmes, des personnes de couleur, pour remplir leur département d'opération hockey, puis ces noms-là sortent, ça va peut-être aider pour d'autres équipes de faire la même chose, parce que je pense que c'est un processus qu'on va voir un peu partout dans la Ligue nationale, parce que... Faut dire les choses comme ils sont, là. C'est plutôt des hommes blancs qui gèrent cette ligue-là. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup. Il n'y a pas juste Jeff Monson, il y a probablement plusieurs propriétaires autour de la ligue qui aimeraient changer ça de peu à peu.
Oui, absolument. Écoute, donc la conférence de presse présentant Kent Hughes aux médias montréalais puis aux fans du Canadien va avoir lieu mercredi après-midi. Au Centre Bell. Donc là, ouais. Effectivement, donc c'est une nouvelle ère qui commence. J'ai bien hâte de voir, tu sais, on parlait des joueurs au sein de la formation, le nouveau tandem qui va devoir se pencher finalement sur qui doit rester, qui doit s'en aller. Mais J'ai hâte de voir aussi de quelle façon les dossiers des joueurs de calibre junior, de calibre universitaire, si ces deux embauches-là vont mener à des changements de situation. Puis là, j'en ai une précise en tête, c'est le cas de Jordan Harris. Tu sais, Jordan Harris, il va devenir, s'il ne signe pas avec le Canadien cet été, il va devenir joueur autonome. Il sera donc en mesure de signer avec l'équipe de son choix. Je me souviens, il y a quelques mois déjà, il y a plein de gens qui disaient « Ah, c'est fini, il ne signera jamais à Montréal, il s'en va avec les Bruins, c'est acquis, etc. » Mais là, la venue d'un joueur, d'un homme comme Kent Hughes peut changer la donne un petit peu, parce que Kent Hughes a déjà coaché Jordan Harris quand Jordan Harris était dans les rangs juniors, donc avec le programme des Boston Junior Eagles. Kent Hughes, donc, qui a fait un petit peu de coaching à l'époque, puis donc avait eu Jordan Harris sous ses ordres. Donc ça, c'est intéressant.
Il faut, faut mentionner aussi que Jordan Harris joue avec deux de ses fils à Northeastern.
Exact.
En plus.
Exact, c'est ça. Riley et puis Jack sont les fils de Kent Hughes. Alors, une autre connexion de plus qui, tu sais, je trouve que ça améliore le profil du Canadien puis les chances, à mon sens, de retenir les services de Harris. Puis je peux vous dire que, d'ailleurs, Jeff Gorton a rencontré le jeune défenseur il y a environ deux semaines, semble-t-il, que la rencontre a été très, très positive. Puis le nouveau vice-président hockey a laissé une bonne impression au jeune homme. Donc, ça va être un dossier intéressant à suivre. Mais, tu sais, la façon d'approcher, je te parlais tout à l'heure du développement des joueurs, mais la façon d'approcher les jeunes joueurs en général, je pense que ça va faire du bien pour le Canadien d'amener des nouvelles idées. On a eu récemment le cas de Mathias Norlinder la gestion de son cas était un peu hésitante avec le Canadien. Finalement, il avait hâte de retourner en Suède. Et le Canadien, historiquement, a énormément, pour une raison ou une autre, a énormément de difficultés à développer des Suédois. C'est une des équipes de la Ligue nationale qui a le plus de difficultés en la matière depuis que Mats Näslund n'est plus là. Mais peut-être que des nouvelles idées, puis d'avoir un gars qui a une approche, une perspective différente, comme Kent Hughes, pourrait arriver peut-être à trouver des solutions, puis dire comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que l'intégration de des joueurs européens qu'on repêche se fait autrement, puis on est capable, nous aussi, d'aller chercher des Suédois. Il y a quelques Finlandais qui se sont démarqués au fil des ans, mais pour une raison ou une autre, les Russes, les Suédois, ça marche pas bien avec le Canadien. Alors peut-être qu'il va, tu sais, du nouveau monde, c'est le fun, parce que avec du nouveau monde arrivent de nouvelles idées et potentiellement de nouvelles solutions, et Dieu sait que le Canadien est en manque de solutions à l'heure actuelle. Donc ça, on arrive à un point où ça devient très intéressant, parce que autant le produit sur glace, lui, n'est pas passionnant, puis fait en sorte qu'on se tourne un peu les pouces, puis il n'y a pas d'incidence sur chaque victoire ou chaque défaite. Mais tout ce qui va se décider en marge des matchs, ce qui va se décider au septième étage, là, c'est une autre paire de manches. Puis je trouve que ça augure bien pour la suite des choses pour les prochains mois, ça.
Ben oui, je pense. Tu sais, le Canadien avait besoin d'un renouveau. Tu sais, ça faisait longtemps que Marc Bergevin était là, que toute son équipe de management était là. Et quand Jeff Molson a dit qu'il voulait un nouveau départ, un fresh start, comme il a mentionné, c'est un peu ça. Tu sais, c'est un peu comme tout le parcours en série l'année dernière, je veux dire, de se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley, ça a bouclé le boucle un peu sur le temps de Marc Bergevin ici. Et là, c'est 7 mois plus tard, c'est fou à croire que la finale de la Coupe Stanley, c'était en juillet.
Aucun sens.
C'était pas si long que ça. Tout le paquet de choses qui est arrivé depuis ce temps-là, le repêchage, évidemment, avec le choix complètement ridicule et stupide de repêcher Logan Mailloux en première ronde. Tout ce qui a découlé de ça, le début de saison, le dossier de Shea Weber, le dossier de Carey Price, même le dossier de Joel Edmondson, mais tu sais, il y a tellement de choses qui sont arrivées. Mais là, je suis d'accord avec toi, il y a deux hommes, et pour moi particulièrement, Kent Hughes, c'est quelqu'un qui est nouveau dans le domaine. Et il va avoir des idées que peut-être que Jeff Gorton il n'a pas pensé déjà, puis que peut-être d'autres équipes n'ont pas pensé. Tu sais, c'est sûrement, il va sûrement arriver avec des idées qui sont pas juste du recyclage des mêmes choses qui ont été faites dans la Ligue nationale depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a jamais été, qui a jamais fait partie de la Ligue nationale comme telle. Et je pense que ça, c'est une bonne chose aussi, d'avoir quelqu'un qui est capable d'amener des bonnes idées, qui est capable de travailler avec quand même une complicité déjà établie avec Jeff Gorton pour s'assurer que ses idées... Il y a quelqu'un qui est prêt à écouter ces idées-là et prendre ces recommandations-là et travailler avec. Je pense que c'est très intéressant pour le Canadien, mais comme j'ai mentionné tantôt, pour moi, les mois les plus intéressants, ça reste à venir. Là. C'est d'ici juillet, ou peut-être la fin juillet, il va y avoir un paquet, je suis convaincu qu'il va y avoir beaucoup d'embauches au niveau des opérations hockey du Canadien, parce que c'est quelque part où ils reconnaissent qu'ils ont un certain avantage avec tout l'argent qui est derrière cette équipe-là. Et que je pense qu'on peut s'attendre à un bon investissement. Bon investissement en termes de ressources humaines au niveau du management du Canadien d'ici l'été, je veux dire. Alors ça, c'est quelque chose où on va vraiment voir le nouveau départ de cette équipe-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec des nouvelles idées qui vont être amenées dedans. Et tu sais, nous, ça fait longtemps que nous, on parle du fait que le Canadien est plus innovateur. Il y avait longtemps où le Canadien, c'était le plus grand innovateur dans le sport du hockey. Puis c'est depuis 20, peut-être même 30, peut-être même 40 ans, mais minimum 30, c'est plus le cas avec le Canadien. Et j'ose croire qu'avec ce qui s'en vient, ils peuvent peut-être redevenir cette équipe-là en amenant du monde qui ont des nouvelles idées et des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir comment gérer une équipe de hockey, comment jouer au hockey. Et ça serait le bienvenu parce que ça fait trop longtemps que les Canadiens suivent la parade. En termes d'innovation, ils devraient être le meneur du parade. Alors, on verra s'ils sont capables de réussir à le faire.
Et écoute, en terminant, je voulais simplement mentionner au passage le nom de Logan Mailloux. C'est intéressant de noter que Logan Mailloux est un client de l'agence Quartex. Donc, ouais. Ce n'était pas un client de Kent Hughes, c'était un client de Darren Ferris et de Dylan Liptrap. Donc, c'est deux autres agents de cette boîte-là. Mais quand même, Kent Hughes est jusqu'à un certain point familier avec le dossier. Donc, il a certainement son opinion sur la meilleure façon de procéder pour pouvoir continuer avec ce dossier-là. Écoute, Arpin, tenons-nous-en à cela pour l'heure. On va évidemment, nous, on va continuer à écrire. On a des articles à fournir pour le site Internet, l'application de athletic.com. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, on vous suggère, comme on le fait à chaque épisode, on vous suggère de vous abonner. Il y a énormément de matériel sur athletic.com, sur le Canadien, évidemment, sur toutes les équipes de la Ligue nationale et tous les sports professionnels que l'on couvre. Donc, vous pouvez profiter d'un rabais sur la première année de votre abonnement en allant au athletic.com/support athlétique. Donc, athletic.com/support athlétique. Ça va vous donner un rabais sur la première année de votre abonnement. Puis je te laisse le mot de la fin, Arpin, tiens.
Ben, c'est tout, honnêtement. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Merci.
C'est ouais, tout, c'est votre ça. Honneur.
C'est tout. Je suis terminé, mais merci d'avoir été là. Ça va remplacer notre épisode normal qui sort les mercredis, évidemment. Mercredi, on va être pas mal occupé, même si la conférence de presse au Centre Bell pour introduire Kent Hughes n'est pas prévue avant 16h de l'après-midi. Alors, ça va être un peu plus tard dans la journée. Mais c'est clair, comme Marc-Antoine a mentionné, de revenir nous voir toute la semaine. On va avoir plein d'articles sur ce nouveau engagement et ce qui s'en vient pour le Canadien dans les prochaines semaines et prochains mois, parce que d'ici, dans les deux prochains mois, il va y avoir des décisions à prendre qui vont avoir une grande incidence sur l'avenir de l'équipe, puis c'est Kent Hughes et Jeff Gorton qui vont les prendre.
Il y a une note que je voulais transmettre à nos auditeurs, puis là, ça me fait penser. Si jamais vous nous écoutez sur Apple Podcasts, entre autres, n'hésitez pas à aller laisser des commentaires ou à noter. Il y a un système de notation par étoile. N'hésitez pas à aller là. à noter. Idéalement, si vous aimez notre podcast, de lui mettre 5 étoiles, mais aussi de laisser des commentaires. Je pense que c'est important pour les gens qui ne nous connaissent pas encore ou qui ne connaissent pas notre podcast. Ben, c'est au moment de s'emmagasiner un. S'ils ont des échos favorables venant de vous, cher public, ben, probablement que ça peut aider le rayonnement. Donc, ben, n'hésitez pas. J'espère que vous allez répondre à l'appel. Et puis, ben voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la version anglophone de The Athletic Support. En attendant, portez-vous bien tout le monde. Bye bye. Thank you.